1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Soyez les bienvenus, chers amis, si vous nous rejoignez après la marée noire, ses conséquences et ses naufrages dans les mers du globe. Parlons politique et d'un sujet criant, la communication de la Macronie. On est en droit de s'interroger sur la posture du président Emmanuel Macron au ski samedi quand les Champs-Élysées étaient saccagés et sur celle de son ministre de l'Intérieur photographié alcoolisé embrassant une jeune femme en boîte de nuit il y a quelques jours. Ont-ils vraiment pris la mesure du problème et du contexte? Qui conseille ces politiques en matière de communication et que disent ces images et ces séquences du rapport à la crise précisément? Au-delà de la polémique, cela soulève plusieurs réflexions sur l'exemplarité des politiques. On vous donne la parole au Standard d'Europe 1. N'hésitez pas avec nos invités que je vous présente dans un instant. Le Standard est ouvert, Julie.
C'est le 3921 et le hashtag Europe 1 pour les réseaux sociaux.
9h-11h. On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Y a-t-il un pilote dans la cellule de communication de la Macronie? Robert Namias, grande voix d'Europe 1, est avec nous. Bonjour Robert.
Bonjour Wendy.
Olivier Beaumont également, grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Vous qui publiez ces jours-ci les péchés capitaux de la politique, on est dedans et vous allez nous en donner le détail aux éditions Flammarion avec ces images désastreuses et les opposants d'Emmanuel Macron qui n'ont évidemment pas perdu une seconde pour les diffuser en masse et en boucle sur les réseaux sociaux. Je tombe à l'instant sur cette photo, sur ce photomontage. Nous voyons sur un télésiège Emmanuel Macron et son épouse Brigitte, et bien sur la foule et sur les incendies sur les Champs-Élysées. Photomontage qui dit beaucoup de ce contraste qu'on a vu d'ailleurs sur toutes les chaînes d'infos. À gauche, les incendies, le Fouquet se saccager, et à droite, Emmanuel Macron tout sourire dans cette blancheur immaculée. Robert Namias.
Il y a pour le moins une question de timing, mais un timing qui en plus était prévisible, c'est ça qui est tout à fait surprenant. Ça n'est pas la coïncidence entre un week-end au ski et quelque chose d'inattendu. C'est le télescopage, et non pas une coïncidence, entre un week-end décidé au ski du président de la République et des manifestations violentes attendues.
Dont et annoncées comme telles, hein, oui.
On n'avait pas vraiment estimé l'échelle de violence, qui a été plus encore que dans le passé, voire le 1er décembre, mais c'est vrai que c'était en plus attendu. Donc il y a un vrai problème de timing. Vous savez, je précède votre question sans prendre trop le micro. Comment a-t-il pu faire ça? Bon, comment a-t-il pu faire ça? L'isolement de l'Élysée. L'isolement de l'Élysée. Ça n'est pas un problème de communication, c'est un problème de déconnexion. Mais il n'y a pas que lui, hein. Vous savez, on pourra rappeler l'histoire relativement récente des 20 dernières années avec Jacques Chirac qui était au Canada pendant la canicule et qui n'a absolument rien senti, rien compris. C'était il y a 20 ans. C'était déjà une faute, oui. Incontestablement. Là, honnêtement, vous savez, pourquoi la déconnexion de l'Élysée? Parce que le président de la République, depuis des semaines et des semaines, il est sur le pont, faut le reconnaître, c'est vrai, c'est un fait objectif. On lui a d'ailleurs reproché d'une certaine manière en occupant les ondes, notamment des chaînes d'infos. Il est sur le pont sans discontinuer quasiment 24 heures sur 24. La semaine dernière, il était à l'étranger.
Oui, en Afrique. Oui,
donc,
en Afrique.
Il a considéré qu'après tout, un week-end de ski, ça n'arrivait à rien d'extraordinaire.
Oui, mais tout le monde lui répondra pas ce samedi-là.
Pas ce samedi-là. Et encore une fois, pourquoi des connexions? Parce qu'il a considéré qu'il y avait droit, réellement droit. Ça n'est pas du mépris, c'est le fruit, le résultat classique, mais là, tout à fait vraiment inopportun et politiquement catastrophique pour lui, de l'enfermement du palais présidentiel.
Alors, vous vous dites pas de mépris, mais beaucoup de Français considèrent que c'est de la provocation. Le problème de la déconnexion que souligne Robert Namias, Olivier Beaumont, c'est qu'elle pointe une chose, c'est que finalement, ces deux mois de séquences, de grands débats dans 8 régions de France, c'était vrai? C'était factice? Ou c'était finalement
c'était
du cinéma?
Où c'est vraiment très étonnant tout de même, c'est qu'en effet, pendant ces deux mois, il n'y a pas eu de faute de quart, sans faire de mauvais jeu de mots par rapport au week-end du président
Oski. Puisqu'on dit de lui que c'était un kili en plus.
Ça faisait suite quand même à une période où de septembre à novembre, on a une succession de boulettes, de mauvaises phrases du président de la République. Il faut se souvenir de cette formule sur les Gaulois réfractaires, ce jeune horticulteur à qui il conseille en effet de traverser la rue pour trouver un emploi, cette façon de s'adresser auprès des retraités en disant qu'ils doivent contribuer à l'effort national. Et c'est ce qui a aussi fait qu'à un moment donné, la colère des Français, c'est s'est aussi concentrée sur l'image du président. Quand la crise des gilets jaunes a éclaté, bien sûr, elle partait d'une crise du pouvoir d'achat, mais on a vu que dans cette crise profonde est revenue en boomerang cette image d'arrogance et d'orgueil
qu'il
du chef de l'État.
Là, de fait,
et qu'il reproduit là, et ce qui est étonnant, ce qu'il reproduit au moment où, en effet, depuis 2 mois, il n'y a pas eu de faute de communication et où il reprend un peu la main dans les sondages. Mmh. Il n'avait cessé de plonger ces derniers mois et, en effet, depuis 1 mois, on voit que, même s'il reste encore globalement assez bas, le chef de l'État reprend du poids de la bête dans l'opinion et là, patatras, il replonge par facilité, en effet, avec en effet cette fête d'erreur dans l'image, parce que déjà, il faut se souvenir qu'à Noël, au moment des fêtes de fin d'année, il avait envisagé de partir
oui,
à la manger.
Finalement, il a annulé
et son équipe
vacances,
lui avait déconseillé à l'époque, justement, pour ne pas jouer sur le choc des images avec les Français, les Gilets jaunes, qui étaient encore nombreux dans les ronds-points à ce moment-là, et lui qui s'accorderait quelques jours au ski.
Et là, il y va. Ça veut dire, Robin Hamas, chasser le naturel, il revient au galop, quand même?
Oui, mais encore une fois, je maintiens, parce que, vraiment, nous connaissons bien le fonctionnement de la présidence de la République de l'intérieur, vous et moi. Et honnêtement, je le dis parce que c'est vrai qu'il y a peut-être de l'arrogance, il y a peut-être le côté, mais après tout, quand même, je me donne suffisamment au pays pour m'accorder 48 heures et des millions d'autres Français l'ont fait. Mais ça n'est pas ça, c'est le sentiment qu'effectivement, il fait le boulot. Et qu'il a besoin,
qu'il
comme
a
tout
loin,
le monde.
Ouais.
En plus, vous savez, je vais vous dire des choses qui ne sont jamais dites, parce que, mais elles sont très réelles dans la vie. C'est la vie. Macron, il a une famille, comme Sarkozy avant lui, avec Cécilia, comme Jacques Chirac avec Bernadette, comme même François Mitterrand avec Daniel Mitterrand. Il y a des rapports qui font à la fois politiques et familiaux qui font que j'imagine qu'à un moment donné, y compris au niveau familial, on lui a dit mais tu as le droit à un week-end. Et c'est cela aussi la déconnexion avec le reste du pays. C'est qu'en fait, un président de la République, on en parlera peut-être pour ce qui concerne la vie privée de manière générale, mais n'a le droit à rien d'autre qu'à se donner 24 heures sur 24 au pays.
Mais ça veut dire quand même qu'il est mal conseillé. Si on lui dit qu'il a le droit de souffler, et qui le ramène à ses responsabilités à Paris, est-ce son sens politique ou pas? Ben, je vous pose la question juste après la pause. Vous y répondez. Robert Namias, Olivier Beaumont, s'il vous plaît, avec Caro qui nous appelle au 39-21 et qui veut réagir. N'hésitez pas, on vous donne la parole, ainsi que le résultat de notre consultation sur Facebook, qui est massive sur le sujet.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Résultat de notre consultation Facebook, on vous a demandé si en étant au ski le jour de l'acte 18 des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait commis une erreur. Oui à 65%.
Près de 14 000 votes.
Oui,
hein.
C'est exactement, ouais. C'est énorme. Hein. Alors, quelques messages. Il savait ce qui allait se passer et encore une fois, il a montré son dédain vis-à-vis des Gilets jaunes et des Français. C'est signé Claire. Laurette, elle, parle de manque de respect pour les Français. Monsieur Macron a fait une pause familiale et sportive. L'erreur a été la com et les médias font l'erreur de le montrer sur les pistes. C'est tout, nous dit Marie. Encore un petit message, même chose pour Mina. L'erreur, c'est de créer une polémique, dit-elle. Quoi que fasse Emmanuel Macron, les grincheux sont là pour trouver à redire. C'est le sport national en France, signé donc Mina. Et puis l'indulgence d'un dernier message, c'est la vie privée. Après un long séjour en Afrique où il a signé près de 3 milliards de contrats pour notre pays, il essaie de passer 2 jours en famille. Soutien à notre président, nous dit Yvette.
C'est bien le problème du droit à la vie privée quand on est gouvernant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec un devoir d'exemplarité, surtout en ces week-ends de mobilisation. Robert Namias s'est exprimé, je vous redonne la parole, cher Robert. Olivier Beaumont, vous êtes grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France. Vous écrivez sur les péchés capitaux de la politique. Avoir le droit, justement, un peu de bon temps, un peu de famille, souffler. Est-ce que ça fait partie des péchés sur lesquels on peut se laisser glisser à son corps défendant comme
Il y a le péché de la paresse, bien sûr. La difficulté, on l'a redit au début de cette émission,
c'est, loin d'être
c'est
le
que
cas,
hein, ça tombe tout de même au pire moment, au mauvais moment de ce week-end de tension qui était largement annoncé depuis plusieurs jours déjà, où on savait qu'il y avoir une forte mobilisation des mouvements, notamment d'extrême gauche et les Black Blocs qui voulaient en découdre dans la rue. On savait qu'il y allait avoir des dégâts majeurs sur l'avenue des Champs-Élysées ce week-end, et ça arrive d'autant plus au mauvais moment que ça intervient, on va peut-être en parler après, 2 jours après une séquence qui a concerné le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui aussi s'est fait prendre la main dans le pot de confiture en participant à une soirée samedi dernier, il y a 10 jours, après un samedi un nouveau samedi de mobilisation. Donc ça tombe très très mal. Et puis ces images, en effet, de ce président. Alors, On dit oui, bien sûr, il a le droit de se reposer. Et c'est d'ailleurs l'explication que donnait samedi matin les communicants de l'Élysée, la présidence de l'Élysée, pour dire il a le droit, le président a le droit de se prendre.
Et d'ailleurs, il ne se cache pas, il est allé à la rencontre de la presse locale.
Et il disait en effet qu'il allait revenir dès le dimanche à l'Élysée et qu'il se tenait informé en temps réel de la situation à Paris. Il était en lien constant avec le Premier ministre Édouard Philippe et le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner.
Oui, mais,
sauf qu'on a une époque où c'est aussi l'époque des réseaux sociaux,
c'est
des téléphones.
Le choc des images.
Et lui-même, il joue le jeu, en effet, vous l'avez dit, il se laisse photographier, il répond à la presse quotidienne régionale. Donc, il alimente ce mauvais buzz, Emmanuel Macron. Et on ne peut pas dire que c'est la première fois. Il y a eu déjà des épisodes précédents depuis le début de ce quinquennat. Donc, le fait de se faire prendre comme ça, c'est vraiment une faute de erreur de débutant, quasiment.
Et ça peut ruiner ces deux mois de mobilisation le terrain, Robert Mamias. Hein.
Je ne sais pas quelle est la valeur et la validité du sondage, en tous les cas,
de la consultation.
De la consultation que vous venez de citer, qui va évoluer tout au long de l'émission et de la journée, j'imagine. Ben moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je trouve que je suis même surpris par le chiffre de 65%. Je ne le trouve pas considérable. Je pense que, compte tenu de ce qui se dit depuis 24 heures et la réalité de cette erreur complète de timing, moi, je pensais que ce serait plutôt 80 ou 90%, vous voyez, de gens qui seraient choqués. Donc, il y a quand même une réflexion aussi sur la vie privée et peut-être aussi un soutien à Macron plus important qu'on ne l'imagine. Moi, ce qui me paraît très important, c'est le fait politique, c'est finalement cette séquence du ski, elle est choquante, elle est stupide. Bon. Mais elle n'a pas beaucoup d'importance.
Elle est inexcusable.
Elle n'a pas beaucoup d'importance aujourd'hui avec le téléphone, etc. Il était le soir à Paris. Encore une fois, j'ai suffisamment dit qu'elle était choquante et stupide pour pouvoir dire qu'elle n'a pas une importance considérable. En revanche, le télescopage entre, on ne trouve plus de mots. De Gaulle avait inventé la chienlit il y a 50 ans pour 4 ou 5 manifestations de nuit violentes. 4 ou 5 manifestations. Le reste de mai 68, ce sont des immenses manifestations qui s'étaient parfaitement bien passées. Je peux même vous donner les dates, j'étais jeune reporter à l'époque. Donc, et il a qualifié effectivement la situation en France de chienlit. Comment, je n'ai pas de mots, si vous m'y aidez, j'en serais ravi. Quel est le mot qui peut aujourd'hui caractériser la situation politique de ce pays? Et ce qui est choquant en ce lendemain de week-end, c'est moins Macron sur des skis ou sur un télésiège que un pouvoir politique, qu'il soit à Paris ou à la montagne, qui n'arrive pas à contrôler une situation qui est tout à fait incroyable. Parce que quand on dit, j'entendais ce matin, quand on dit mais effectivement les Black Blocs étaient assez nombreux et puis les manifestations ont terriblement évolué, je suis désolé, c'est sans précédent en France, en Europe. Donc, il y a un problème de fond, il y a un problème politique, il y a un problème de maintien de l'ordre, et il y a un gouvernement qui, pour l'instant, ne réussit pas à maintenir l'ordre dans ce pays.
On va y venir. Jean-Louis Pinault m'écrit personnellement sur Twitter. Sous-entendriez-vous que le président n'est plus aux commandes quand il est hors de Paris? Je trouve que vous n'êtes pas dans l'apaisement. Alors, on va lui répondre ensemble. C'est qu'on ne prend peut-être pas vraiment la mesure du sujet quand on est sur des pistes pyrénéennes, que dès 10h du matin, il y a des violences dans les rues, qu'on sait que la situation va dégénérer. Peut-être, en effet, cela pose la question de la déconnexion, une fois de plus, de l'isolement de l'Élysée, comme vous l'avez très bien dit, Robert Namias, en début d'émission. Caro et Philippe vont réagir juste après la pause. Avec vos réactions sur Twitter, ma chère Julie, le débat est ouvert et le standard également. Hein.
3921 et pour Twitter, le hashtag Europe 1.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Jusqu'où le droit à une vie privée est-il compatible avec des fonctions d'État? Où commence l'exemplarité de nos politiques? On fait le tour de la question jusqu'à 11h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Absolument. Après 2 mois de grands débats dans 8 régions de France, après 5 jours de tournée en Afrique, Emmanuel Macron avait-il le droit de couper, de souffler, en oubliant peut-être pour certains totalement la situation et ce samedi 16 mars de mobilisation massive est annoncée. Nous avons Marie de Saint-Sébastien-sur-Loire qui nous dit que le président est un homme comme les autres, qui a le droit à des moments de détente et on a vu, dit-elle, qu'il avait réagi très vite. Il est tout à fait normal que M. Macron aille se reposer. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques milliers de personnes qui embêtent les autres le samedi, qui n'a pas le droit au repos, ajoute Michel. Le président ou le ministre de l'Intérieur sont des hommes aux qualités certaines, mais l'un et l'autre ne sont pas pour autant des surhommes. Le président a peut-être besoin de vacances et c'est normal, nous dit François de Toulouse. Finalement, pas mal de messages compatissants sur le sujet, Robert Namias, Olivier Beaumont. Oui. Ça vous étonne ? face au déferlement de violence qu'on a vu quand même sur les réseaux sociaux
ces
quelques heures.
Non, parce que aussi on a les Français encore, on a tous encore ces images de ce chef de l'État qui a enchaîné ces marathons pour revenir sur le grand débat. En effet, ces marathons de plusieurs heures, jusqu'à 7 heures parfois, devant les Français à s'exprimer et tout ça. Donc Emmanuel Macron, pendant les cours des deux derniers mois, il a mouillé sa chemise, même au sens physique du terme, vraiment. Donc et il ne s'est pas affiché au moment des fêtes de fin d'année, en effet, en vacances. Il ne s'est pas. Donc quelque part, qu'il s'accorde un court week-end de repos pour rejoindre son épouse, qui elle était déjà là depuis quelques jours à la Mongie, il peut y avoir en effet une forme de compréhension pour une partie des Français, en effet, qui considèrent que ça reste un homme aussi, et il a le droit aussi de souffler, même pour quelques heures.
Caro est avec nous au 39-21. Bonjour madame.
Oui, bonjour.
Merci de nous appeler, de Marc en Bareuil, et de réagir à cette actualité, madame.
Eh bien, écoutez, moi, j'adhère un peu aux propos de vos deux interlocuteurs. Bon, certes, il a besoin de repos, c'est tout à fait normal, sauf que le moment est véritablement mal choisi. Et je ne comprends pas, si vous voulez, que nos hommes politiques qui sont considérés comme sortant des grandes écoles, des intellectuels, des gens compétents, puisse encore, au jour d'aujourd'hui, ne pas avoir besoin de conseillers en communication pour comprendre qu'à droite, qu'à gauche, que devant, derrière eux, ils sont photographiés, ils sont, on sait ce qu'ils font à la minute près et que c'est répercuté au monde entier. Je pense que chez eux, si vous voulez agir, en particulier comme M. Macron et son ministre de l'Intérieur l'ont fait, ça paraît légitime, mais c'est inconséquent.
Oui, et ça pose, Caro, la question aussi que soulevait, enfin la réflexion que soulevait un de nos collègues, Yvan Rioufol, sur Twitter, vous l'avez peut-être lu, Robert Namias, comparant Emmanuel Macron qui part au ski, journée de mobilisation massive, comme Louis XVI allait à la chasse. Il y a ce sentiment de déconnexion et d'absence de flair politique.
Ça me paraît totalement excessif.
Il y a un sentiment d'incompréhension, si je le conçois, de la part du peuple. Qui se dit les vrais gilets jaunes, ceux qui ont démarré au début, pas les casseurs ni ceux qui actuellement démolissent et tout ça. Pour ces gens-là, qu'est-ce que vous pensez qu'ils puissent réagir ou concevoir?
Oui, de la gestion de crise. Robert Namias, ça vous répond, Caro.
Oui, non, mais moi je suis complètement sur votre ligne, et j'adhère à votre propos, madame. D'ailleurs, elle reflète un petit peu ce que nous disions. Je répondais à Wendy concernant Rioufol. Ça me paraît tout à fait excessif, c'est de la polémique journalistique. C'est d'ailleurs un très bon polémiste, donc il n'y a aucun problème. Enfin, ce sont des phrases faciles qu'on couche sur le papier, mais qui n'ont pas de réalité et pas de fond. Comparer la situation d'aujourd'hui à celle de la pré-révolution de 89, je sais que tout le monde en a envie, ça n'a strictement aucun rapport, c'est carrément stupide et historiquement stupide. Donc Mais bon, c'est un très bon polémiste, Rioufol. Non, par contre, ce que vous dites, et ce qui est dit de manière générale, est-ce que, Wendy, vous reflétez dans les citations que vous faites, des tweets, etc., me paraît tout à fait intéressant, parce que ça pose plusieurs questions. Ça pose d'abord, on a suffisamment dit, et madame vient de le redire, Caro vient de le redire, qu'il y a une erreur de timing et que la décision de Macron de prendre malgré tout ces deux jours à la montagne et au ski était tout à fait inopportune, compte tenu de la situation politique, c'est absolument évident. Mais je pense aussi qu'il faut réfléchir quand même, parce que ça fait 24 heures qu'on parle de ça, il faut réfléchir sur les médias eux-mêmes. Est-ce que les médias n'ont pas amplifié, se contentant de relayer, là en l'occurrence les réseaux sociaux, c'est très important, c'est fondamental, mais il ne faut pas reproduire en permanence les erreurs qui ont peut-être été faites au début de ce mouvement en ne se focalisant plus que sur les réseaux sociaux. Et on verra plutôt à travers des sondages plus fiables, et puis éventuellement les urnes dans quelques mois, sous quelque forme que ce soit, quelle est la réalité politique de ce pays. Moi, ce que je pense plus important, y compris aujourd'hui comme question journalistique, question politique, c'est pourquoi ce gouvernement est incapable de maintenir l'ordre dans ce pays, quel est son degré ou de professionnalisme, ou d'amateurisme, où on met le curseur, puisqu'on les a traités d'amateurs, qu'on a traité le ministre de l'Intérieur d'amateur, et Et c'est la vraie question, c'est la question centrale. Et je pense qu'à la fois, les réseaux sociaux eux-mêmes, et qui plus est les médias qui parfois les relaissent sans suffisamment de recul, s'attachent. Alors, effectivement, c'est une affaire. C'est pas une affaire, d'ailleurs. C'est une erreur. Bon, très bien, mais ça n'est pas la question centrale.
D'accord, mais sur l'amateurisme et le déficit d'autorité, vous faites bien d'en parler, Robert, parce que ça va nous réunir juste après la pause et je ferai réagir Olivier Beaumont sur le sujet. Régis a une question à vous poser là-dessus, sur les compétences et les qualités face à ce que vous qualifiez de chienlit, de grand bordel, de bazar qui n'est plus du tout tenu aujourd'hui. Ça suffit, a dit Emmanuel Macron, qui veut interdire les manifestations sur les Champs-Élysées, comme il aurait peut-être été nécessaire de le faire depuis presque 2 mois maintenant. On fait le tour de la question, n'hésitez pas à réagir. Je donne la parole à Philippe et à Régis dans un instant.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Emmanuel Macron a-t-il vraiment compris ce qui se passait dans le pays? Les consignes des autorités ont-elles été à la hauteur? Samedi, une fois de plus, on a eu le sentiment que rien n'était maîtrisé, que rien n'avait été prévu, Wendy Bouchard.
Avec, Julie, un président et un ministre de l'Intérieur mitraillés par l'opposition pour incompétence, impossibilité de sentir véritablement le fond de la crise après pourtant 2 mois de grands débats et la fin des contributions vendredi passé. Robert Namias, grande voix d'Europe 1, est avec nous. Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du Parisien aujourd'hui en France et auteur des péchés capitaux de la politique également. Je voudrais vous faire réagir aussi à cet autre procès en incompétence qu'on a fait au ministre de l'Intérieur. Les réactions sont très fortes d'ailleurs sur les réseaux sociaux à l'encontre de Christophe Castaner sur sa soirée alcoolisée le soir du 9 mars dans une boîte de nuit parisienne. Le Premier ministre était interrogé sur le sujet par Nikos Aliagas vendredi. Écoutez sa réponse.
Écoutez, moi je ne lis pas Castaner. La presse People. Je n'ai aucun commentaire à faire sur la vie privée de Christophe Castaner et le ministre de l'Intérieur à toute ma confiance. Je parle avec Christophe Castaner de tout, mais je ne l'ai pas convoqué. Et,
mais
évidemment,
vous en avez parlé.
Mais vous pensez que le ministre de l'Intérieur et le Premier ministre, ils ne se parlent pas de tout? Évidemment qu'ils se parlent. Donc évidemment qu'on a parlé. Mais je
vous ne nous direz pas.
Si, je vous ai dit.
Faute professionnelle, disent les syndicats de police aujourd'hui à l'encontre de leur ministre Christophe Castaner, Olivier Beaumont. Festoyer, se donner un peu de bon temps, oublier qu'on est ministre le temps d'une soirée, ça fait partie des péchés capitaux de nos gouvernants.
Oui, et puis alors encore plus qu'on est ministre de l'Intérieur et qu'on est pris comme ça, en train de, avec un verre de vodka, en bonne compagnie et dans une boîte de nuit. Un soir de samedi de mobilisation des Gilets jaunes, où ce samedi-là, justement, il avait demandé un effort important de mobilisation des forces de l'ordre. C'est intéressant la réponse d'Edouard Philippe vendredi matin sur votre antenne, parce que déjà, on voit qu'il n'a pas du tout envie de répondre, qu'il a le visage, le masque même, très, très fermé.
Très mal à l'aise, évidemment.
Voilà. Ouais. Et puis surtout ce propos sur « je ne commande pas la presse People ». Alors, bien sûr, c'est Closer et Voici qui sortent les images, mais c'est une manière de dire finalement, ce sont des petites choses, ça n'intéresse pas les Français, une manière de dénigrer un petit peu ce qui s'est passé. Or non, ce qui s'est passé avec Christophe Castaner, bien sûr, c'est la
presse
People.
Il dit qu'il ne lit pas la presse People,
oui,
et qu'il
voilà.
ne commande pas la vie privée
voilà.
de ses ministres.
Oui. Mais c'est quand même un fait politique, pour les raisons que je viens d'évoquer par rapport au problème du timing, par rapport au fait qu'il est ministre de l'Intérieur, quand on est à Beauvau, comme pour le président de la République, hein, c'est vraiment du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7. Et c'est vrai que c'est pas tant le fait que Christophe Castaner puisisse aller à une soirée un samedi soir pour se détendre qui pose problème, que en effet il incarne cette image du premier flic de France. Qu'est-ce qui serait passé? En effet, ça a été relevé par certains de ses opposants, notamment si ce soir-là il y avait eu un attentat. Je ne sais pas s'il était alcoolisé ou pas, Christophe Castaner, mais c'est vrai que ça pose pas mal de questions. Ça pose aussi des questions sur sa sécurité. On sait que c'est une personnalité qui est très exposée, hein, dans le cadre des menaces qui pèsent aujourd'hui sur les personnalités politiques par rapport aux menaces d'attentats.
Il précise
notamment.
Que sa sécurité est assurée, ça pose une question d'exemplarité.
Il précise que sa sécurité est assurée, mais pour ceux qui ont vu les images et la vidéo, c'est quand même, alors je ne sais pas qui est-ce qui l'a filmé exactement, mais c'est une personne qui se situait à 2-3 mètres de Christophe Castaner dans cette boîte de nuit, qui tend son téléphone, qui tend son bras un petit peu en hauteur et qui arrive à prendre cette séquence pendant quelques secondes. Et on ne voit personne autour, finalement, dans les forces de sécurité potentielles qui étaient visiblement autour du ministre de l'Intérieur. On ne voit personne se manifester pour empêcher ces personnes de filmer. Donc, ça pose quand même un certain nombre de questions en effet. Et puis cette affaire, elle sort en plus deux jours avant ce nouveau week-end.
C'est
dramatique pour l'image du locataire de Beauvau.
C'est une image qui risque de coller à la peau Christophe Castaner. On a vu d'ailleurs dans les cortèges, je citais tout à l'heure, ces banderoles Macron au ski, Castaner au whisky, ça c'est terrible.
On sait qu'il a, ça le renvoie à son passé un petit peu turbulent. Christophe Castaner, il y a eu pas mal de papiers, de portraits qui sont sortis quand il est arrivé à Beauvau. On sait qu'à l'âge de 18 ans, il a planté ses études et sa famille pour vivre pendant deux ans à Marseille, où il joue au poker. C'est une époque aussi où il s'est accoquiné avec certains caïds du milieu et tout ça. Donc ça le renvoie un petit peu à se passer un petit peu sulfureux.
Caricaturiste Nicolas Canteloup. Oui. En tout cas, une image difficile en ce contexte pour le ministre de l'Intérieur.
C'est un vrai cas d'école, parce que alors là, pour le coup, c'est une vraie faute, incontestablement. On n'est pas là pour juger, mais enfin, on peut la qualifier quand même, cette situation.
Bien sûr.
C'est une vraie faute politique. Ça intervenait quelques heures seulement après quand même une journée de tension forte où il y avait quand même eu, même s'ils avaient été relativement minimes, des incidents. La police était nombreuse dans la rue et que le ministre de l'Intérieur, quelques heures plus tard, se retrouve dans une boîte. Peu importe les conditions, alcoolisées, compagne, pas compagne.
Oui, c'est la situation même.
C'est la situation elle-même, le fait même que le ministre de l'Intérieur se dise « mais au fond, j'ai le droit aussi ». Et ça pose la question centrale, fondamentale, qui est celle « vie privée, vie publique, aujourd'hui ». Par rapport même à il y a 20, 30 ou 40 ans. Aujourd'hui, à la fois compte tenu, c'est une réalité incontournable et aujourd'hui indépassable, compte tenu de la transparence absolue due aux réseaux sociaux, due à tous les instruments, ne serait-ce que techniques, technologiques, je pense évidemment au téléphone portable, mais à plein d'autres qui permettent des enregistrements de toute nature pour 3 francs 6 sous, etc. Aujourd'hui, on sait qu'il n'y a plus de vie privée pour les hommes politiques. C'est clair, c'est comme ça. Parce que leur vie privée leur sera toujours renvoyée sur le plan politique et ce sera toujours un argument politique et utilisé politiquement.
Donc voilà, je pense que,
effectivement, il faut dire les choses comme elles sont.
Maximum.
Entrer en politique aujourd'hui, et surtout à ce niveau gouvernemental, Matignon et qui plus est l'Élysée, on en parlait il y a un instant, c'est aussi accepter l'idée qu'il n'y a plus. C'est bien joli de dire « mais j'ai une vie privée, je la revendique, je suis un... » Non, c'est comme ça, c'est une réalité, on peut le regretter, mais ça a un impact si fort sur la politique, parce que politique c'est aussi de l'image.
Oui, il ne peut pas dire non plus se défendre en disant « c'est ma vie privée ».
Non, aujourd'hui c'est impossible, c'est impossible. Nous avons tous droit à une vie privée, les politiques aussi, sauf que objectivement, ils n'ont plus de vie privée.
Ou alors, si elle est privée,
ils doivent le savoir.
Elle est vraiment privée et pas dans une soirée privée avec 200 personnes.
Oui, mais d'ailleurs, c'est aussi le point de départ de mon livre sur les péchés capitaux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, aujourd'hui même, depuis tout temps, j'ai presque envie de dire, quand les hommes et les femmes politiques, ils chutent ou trébuchent, c'est aussi parce que, c'est plus même quelque part, parce qu'ils subissent le jugement réprobateur de leurs électeurs sur des faits de personnalité, que sur, en effet, des prises de position ou des idées politiques. On l'a vu au moment de la crise des Gilets jaunes, quelque part, ce sentiment d'exaspération et même de colère des Français concernant l'image du président de la République. On est exactement dedans, sur la notion d'orgueil. Mais par le passé, il faut se souvenir aussi, DSK, les travers de la luxure, c'est ça qui l'empêche aussi de se présenter à l'élection présidentielle de 2007. Et puis, on en a d'autres aussi comme ça.
C'est une exemplarité que mettent en avant les citoyens, les finances, parce que les politiques n'osent pas s'exprimer sur ce genre de cas.
Ils savent que, de toute façon, ils sont toujours rattrapés par leur trait de personnalité, c'est ça qui finit par les faire chuter.
Ouais, absolument.
C'est la même question que celle qui était posée tout à l'heure à propos du président de la République, c'est le télescopage politique. La situation serait apaisée. On serait dans un pays en forme, plutôt euphorique, où précisément tout le monde a le droit d'aller danser dans une boîte. C'est sympa, les boîtes, moi je suis allé en boîte. C'est très sympa. Là, ça n'est pas possible. L'heure n'est pas à aller dans une boîte pour un ministre. C'est tout, c'est
comme
ça. Voilà.
Pour l'instant, nos auditeurs sont concentrés sur le cas Emmanuel Macron. On va y revenir avec Philippe. Et je suis étonnée parce que vous êtes vraiment dans l'idée même, du sens que 45% des auditeurs aujourd'hui relaient, c'est-à-dire que M. Macron a le droit, en dépit de sa fonction de président, à un week-end au ski, a le droit de souffler, comme nous le dit Olivier du Pas-de-Calais, Gérard des Hauts-de-Seine, Jeanne Lucie, des Hautes-Pyrénées. A tout de suite avec vos témoignages au standard jusqu'à 11h sur le sujet.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
lendemain d'un week-end lourd sur le front des manifestations et des bilans, s'interroge sur la posture du président Emmanuel Macron qui était au ski, sur celle de son ministre de l'Intérieur photographié en boîte de nuit. Et on se demande, est-ce qu'ils ont pris la mesure du problème et du contexte.
Oui, contexte qui est précisément complexe et qui traduit un déphasage, du moins une déconnexion. Robert Namias, Olivier Beaumont, nos invités sont là pour nous éclairer sur le sujet. Et Régis, au standard, au 3921, une question pour vous, Robert. Bonjour Régis.
Bonjour Wendy, bonjour Monsieur Namias.
Merci
Monsieur
d'intervenir.
Beaumont et la jolie Julie que je salue au passage.
Bonjour Régis.
Je voulais simplement, oui, j'aime bien l'inquiétude, les propos de Robert Damien s'il est posé, on sent qu'il y a 30 ou 40 ans de métier dans l'information politique, et j'aime bien, ça nous change de chaîne info, ils sont 6 autour d'une table à vociférer, à donner des leçons. Non,
merci,
vous avez raison. Je pense, et la question que je posais à Robert Damien, c'était, est-ce qu'autant de François Mitterrand, autant de Nicolas Sarkozy, le préfet et le ministre auraient été démissionnés, je crois.
Je pense que
François Mitterrand, c'était quand même pas quelqu'un de très facile, et je pense qu'il les aurait mis à l'amende.
Et c'est ce que je reproche. Et autant de Gaston Defferre, ça ne se serait pas passé comme ça.
Voilà, donc voilà, bah vous avez répondu à ma question, parce que je connaissais à l'avance votre réponse, mais je salue votre quiétude dans vos propos. Ça fait du bien d'entendre quelqu'un qui parle tranquillement, qui explique bien la situation, et c'est vrai que moi je pense que nous avons des gens au pouvoir en ce moment, comme M. Castaner, qu'il faut respecter, parce que malheureusement on ne respecte plus les fonctions maintenant, mais vous l'avez très bien dit, mais je pense que c'est des gens qui n'ont pas d'expérience d'État. Tout simplement.
Eh bien, Régis, non. Vous êtes rejoint par Thibault et on va vous laisser répondre, Robert. Thibault Normand sur Twitter, hashtag Europe 1, qui nous dit « La question du sens de l'État se pose à propos de la nouvelle génération de responsables politiques, justement. »
Oui, non, mais vous avez tout à fait raison. Vous vous posiez la question de François Mitterrand, on peut se poser celle de Jacques Chirac, voire plus récemment, voire même de Nicolas Sarkozy, sur deux plans. En ce qui concerne la vie privée, on sait très bien que les présidents ont toujours eu des vies privées qui leur appartenaient, dont on a découvert bien des années plus tard quelles étaient les vies privées de chacun, c'est-à-dire certaines étaient agitées, d'autres étaient plus tranquilles. Mais c'est vrai, encore une fois, qu'il n'y avait pas ni réseaux sociaux, ni même Press People, qui ne date que d'une vingtaine d'années en réalité, pour révéler ses vies privées. C'est un fait aujourd'hui, je le redis, incontournable, qui fait que le rapport à la vie privée et le rapport vie privée-vie publique pour un homme politique a radicalement et définitivement changé, qu'ils le sachent quand ils entrent en politique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, quant au maintien de l'ordre, écoutez, chacun son métier. Moi, je ne suis que journaliste, mais je constate qu'effectivement, on peut le dire. C'est vrai que ce sont des situations sans précédent. Sauf que des désordres de cette nature, on a connu dans le passé des désordres aussi violents, aussi forts, ça durait quelques heures, ça durait une journée, et puis c'était relativement maîtrisé. Alors, il y a forcément, techniquement, des mesures à prendre qui n'ont pas été prises, et un pouvoir politique qui ne cesse d'affirmer une fermeté qui n'existe pas dans les faits. Ce qui d'ailleurs va finir par poser un problème majeur au président de la République, parce que il ne peut pas, de cette manière, répéter chaque semaine qu'enfin, on va agir avec fermeté,
voilà, et
que la semaine suivante, une avenue de Paris est à feu et à sang. Enfin, pas à sang, fort heureusement d'ailleurs, pardon. Mais à feu en tous les cas.
Ouais, voilà. Et c'est le procès en incompétence qu'on peut faire à ces novices en politique. Tout jeune quadragénaire qu'il est, Emmanuel Macron n'a pas eu d'expérience encore si tendue.
Oui. Et là, ça nous renvoie et ça le renvoie à la genèse et à la jeunesse aussi de cette majorité qui, pour une grande partie des membres qui composent ce gouvernement, ont peu ou pas d'expérience politique avant mai 2017. Et on le voit aussi, au moment des épisodes de remaniement, à chaque fois c'est très compliqué pour former le casting. On voit à quel point c'était compliqué pour l'exécutif de trouver une tête de liste pour les européennes. Nathalie Zoiseau a fini par se déclarer, ça a fini par arranger tout le monde. Et puis le cas de Christophe Castaner... En effet, il y a aussi cette autre difficulté pour Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a du mal à se séparer, à licencier, à se couper des gens.
Bon, d'autant
plus pour Christophe Castaner,
il l'a fait quand même. Hein,
pour d'autres circonstances, ils ont dû partir parce qu'il y avait l'affaire Benalla et plusieurs choses. Mais Christophe Castaner, c'est un plus proche parmi les plus proches d'Emmanuel Macron. Donc il y a ce rapport aussi affectif avec le chef de l'État qui va être très compliqué aussi pour.
Attends, il y a le sens de l'État avant l'affect. Hein.
Mais
oui,
ça reste la politique, c'est aussi de l'humain et bon, ça peut compter aussi. Quoi.
Merci Olivier Beaumont. Nicole nous écrit Déviant les bains. Attention de ne pas faire l'amalgame entre les situations de M. Macron et de M. Castaner. Emmanuel Macron est juste parti en week-end prendre l'air avec sa femme et M. Castaner a pour moi fait une faute grave que vous avez relayée à quelques instants. Robert Namias, à tout de suite. Merci Régis de votre questionnement et de vos gentils mots pour Robert. À tout de suite avec Gérard au Standard Europe 1. Vous êtes très nombreux à nous appeler.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Europe 1. Il est 11h-10, les dernières minutes de cette émission. Wendy Bouchard, le tour de la question. Avec le « ça suffit » d'Emmanuel Macron, rentré précipitamment de ses vacances au ski en ce jour dur de manifestations et de violences, les Champs-Élysées saccagés, les CRS exsangues sous un ciel parisien engrenadé et Christophe Castaner mis au pilori après ce comportement discutable. Robert Namias est avec nous, Olivier Beaumont, grand reporter au service politique du Parisien, aujourd'hui en France également. Nous avons Gérard au standard qui veut réagir et votre réaction appellera analyse de nos invités. Bonjour Gérard.
Bonjour à tous et salut les copains.
Bah merci, c'est une belle radio d'Europe 1 que vous connaissez manifestement depuis un moment. On vous écoute.
Voilà. La remarque moi, que je voulais faire, c'est que tout simplement, il faut 500 signatures pour se présenter à la présidence. Et par contre, aucune expérience n'est exigée. Je pense qu'il aurait au moins fallu avoir été maire d'une commune pendant 5 ans. C'est un minimum.
Oui, ça traduit pour vous la déconnexion et le déphasage dont on parle depuis.
Voilà, non seulement on a un président de la République qui n'a jamais exercé, qui a fait un véritable coup de Trafalgar, mais en plus de ça... Il n'a eu aucune expérience suite à une élection. Hein, il a été nommé là par ses capacités, mais pas par son...
Élu, pas nommé quand même.
Oui, il a été élu par ses capacités et non par son expérience. Et en plus de tout ça, non seulement il n'a jamais été maire, mais en plus il n'est même pas père de famille.
Oui, il a une famille recomposée nombreuse, Emmanuel Macron.
Je dis ça sur la rigolade.
Oui, sur la gestion paternelle et bon.
Il n'est pas maire et en plus il n'est pas père.
D'accord, c'était de l'humour. Alors, Robert Namias vous répond sur le ton.
D'ailleurs, l'humour, il y a à la fois du vrai et du faux. Macron a montré qu'il était capable non seulement d'emporter une présidentielle. Mais c'est un fait objectif, même si on dit qu'il a été mal élu. Je rappelle quand même qu'il a été élu par 21 millions de Français, quelles que soient les raisons pour lesquelles il a été élu. Il a été élu et estimé être capable d'assurer le pouvoir. En revanche, et là vous avez raison, je crois que la façon dont il a été élu, c'est-à-dire en provoquant un tel séisme, qui se traduit par un champ de ruines, au sens propre du terme, politique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de personnalité politique de premier plan, tout a été pulvérisé. Et au bout de 2 ans, on s'aperçoit qu'il n'a pas reconstruit. C'est ça le problème, qu'il n'a pas reconstruit. Parce qu'on parlait des compétences et des qualités des ministres de l'Intérieur. Mais enfin, quand on énumère depuis ne serait-ce que 20 ans, alors je ne remonte pas plus loin, le nombre de ministres de l'Intérieur de qualité, où sont-ils le plus récent,
Cazeneuve, qui est excellent, Valls, qui est en réserve de la République.
Sarkozy, que ce soit à droite, à gauche, en remontant un peu plus loin, les Jox, les Chevènement, enfin, je veux dire... Alors, je ne parle pas de Pasqua, encore une fois, ou de Fer que j'ai cité tout à l'heure. Donc, il y avait des vraies personnalités qui, à la fois, savaient que c'était un poste éminemment politique et savaient se reposer sur des techniciens du maintien de l'ordre. Oui. Là, le champ de ruines politique est tel que, effectivement, je pense que, très objectivement, je n'en sais rien, indépendamment des relations affectives que le président de la République peut entretenir avec son ministre de l'Intérieur.
Il doit se séparer.
Objectivement, la question a été posée tout à l'heure. Je crois qu'on peut y répondre sans se mettre à la place de ceux qui sont disparus aujourd'hui. Mais c'est vrai que jusqu'à Chirac inclus, voire après une situation de cette nature, le ministre de l'Intérieur et le préfet de police auraient sauté. Mais faut-il encore savoir, quand on se souvient de la difficulté que le président Macron a eue pour remplacer Gérard Collomb, encore faut-il savoir par qui il est remplacé avec efficacité. Or c'est ça la difficulté de la situation politique aujourd'hui, c'est que le champ de ruines qui finalement
n'a pas laissé prospérer autre chose.
Peut-être souhaité, puisque sans ça il n'aurait pas eu lieu, n'a pas permis une reconstruction suffisante pour permettre une gouvernance relativement efficace et sereine.
Absolument, Olivier Beaumont pour conclure, oui, il peut sauter pour vous Christophe Castaner.
Il y a le problème, la difficulté c'est le timing, parce que là on rentre dans un mauvais mouvement pour Emmanuel Macron. S'il remplace Castaner, ça ouvre un remaniement, ça ouvre une nouvelle crise politique. On est quand même à quelques jours, encore quelques semaines des élections européennes, le 26 mai, et puis cette fameuse question de l'atterrissage du grand débat. Donc si demain il y a un remaniement avec un des plus proches, parmi les plus proches du chef de l'État qui est amené à sauter de ce ministère, si important qui est celui de Beauvau, ça ouvre clairement une crise politique majeure.
Mais ça donnerait des gages sur l'autorité dont peut faire
Oui, mais aussi un aveu de faiblesse et un aveu d'échec, de raté sur le choix de cet homme à cette fonction-là pour le chef de l'État.
Olivier Beaumont suivra la situation. Je renvoie à votre livre Les péchés capitaux de la politique, paru il y a quelques jours aux éditions Flammarion. Quant au roman Fake News avec Michel Cotta, il cartonne. Robert Namias, on le conseille encore aux auditeurs d'Europe 1. Merci Robert, merci de votre lecture de l'info. Chers amis, on se retrouve demain 9h, 11h avec vous, ma chère Julie, pour faire deux tours de la question.
Voilà, c'était Wendy Bouchard. À demain, dans un instant, Anne Roumanoff.
9h, 11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.